Vous pouvez même tourner dans Esdras, juste avant. Esdras. J'aimerais ça qu'on puisse prier ensemble, prier pour cette série qu'on commence ce matin. On va passer 3 à 4 mois ensemble dans ce livre-là, les 3 prochains mois certainement. J'aimerais ça qu'on puisse prier aussi pour Marcel. J'ai parlé avec Marcel Lapointe cette semaine. Il n'a pas eu des bonnes nouvelles pour sa santé. Il cherchait, je crois, les médecins cherchaient à identifier ce qu'il avait, tout ça. Et puis, est-ce que c'est correct, Marcel, si je dis un mot? T'as plus tellement le choix, hein? OK. Merci. Je suis désolé, j'aurais dû te le demander avant. Mais c'est ça, Marcel a eu des mauvaises nouvelles dans le sens qu'il est atteint de la maladie de Lou Gehrig. Et donc, Dieu est en train de lui donner une idée que peut-être qu'il va venir le chercher avant certains d'entre nous. En gros, c'est ça, puisque c'est une maladie qui est incertaine au niveau de la durée, tout ça. Mais les prochains mois, il va y avoir une dégénérescence progressive, tout ça. J'ai parlé avec Marcel un petit peu cette semaine. On a prié ensemble au téléphone. Comme toujours, depuis que je connais Marcel et Hélène, c'est un homme et une femme de Dieu qui se confient dans le Seigneur malgré la tristesse. Hein? On sent quand même la tristesse, tout ça. Et donc, j'aimerais ça que l'Église puisse être en prière pour eux. Que l'Église puisse être en prière pour lui, pour son cœur, pour le cœur d'Hélène, pour leur témoignage. Comme je mentionnais dans la prière tout à l'heure, cette semaine avec Marcel, je disais, Seigneur, j'aimerais ça que tu fasses des miracles, que tu répondes à certaines de leurs prières pour la famille, tout ça, et que Marcel puisse le voir. C'est sûr qu'il saura tout ça dans l'éternité, mais qu'il puisse le voir maintenant. Il me semble que ce serait une belle bénédiction et que l'Église puisse être là aussi pour eux. D'accord? Alors, on va aller ensemble dans la prière. D'accord? Père, merci pour ta présence ici au milieu de nous ce matin. Tes regards sont ici, Père, parce que nous sommes tes enfants, parce que nous t'avons connu en Jésus-Christ, parce que tu nous as adoptés en Jésus. Et ton esprit habite en nous, et ta parole nous dit que tu habites au milieu des louanges de ton peuple, Seigneur. Comme on vient de le chanter, Tu me connaissais, Seigneur, avant même que je sois. Tu m'aimais déjà, tu m'avais choisi, Seigneur. C'est la même chose pour Marcel. Je veux te remercier pour la foi que tu lui as donnée, Seigneur. Je veux te remercier d'être entré dans sa vie, dans son cœur, dans sa famille, Seigneur, dans le cœur d'Hélène. Je te remercie, Père, pour la paix et l'espérance que tu places en lui. Cette espérance qui est particulière parce que nous avons ce gage de ton amour envers nous, le sacrifice de ton Fils. Nous faisons reposer, Seigneur, toute notre espérance sur ce gage d'amour extraordinaire que tu nous as donné. En venant donner ta vie en sacrifice sur la croix pour nous, pour nos péchés. Pour que nous puissions être pardonnés et réconciliés avec Dieu. Préparé pour l'éternité. Et nous avons, Seigneur, en nous ton esprit qui rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Père, j'aimerais te demander de bénir d'une manière particulière la famille Lapointe au cours des prochains mois, des prochaines années. Toi, tu connais les temps, les moments, en fait, de chacune de nos vies ici, Seigneur. Et tu sais qui d'entre nous sera encore vivant demain. Mais Père, je veux te demander une grâce particulière pour la famille Lapointe. Je veux te demander une présence particulière de ton esprit, une plénitude de l'esprit, Seigneur. Accorde-leur cette grâce. Comme Marcel me le disait, quand tu entends ces choses, il y a des choses qui deviennent moins importantes. La perspective change. Mais je te demande, Père, de leur donner toujours la juste perspective afin que leur cœur soit sans inquiétude. Cette promesse merveilleuse que tu nous donnes dans Philippiens, de nous donner une paix qui surpasse, qui dépasse toute intelligence, je te demande de la leur accorder, Seigneur. Père, je te prie d'entendre spécialement les prières de Marcel et d'Hélène. Leurs prières qu'ils t'apportent depuis des années. Nous avons vu, Seigneur, en 2010 et dans les années précédentes, mais spécialement en 2010, Seigneur, nous avons vu tes réponses aux prières de plusieurs parents ici. des cœurs de parents ont été bouleversés par ta gloire, Seigneur, parce que tu as parlé à nos enfants. Je te demande de faire la même chose dans la famille La Pointe, dans ta grâce. Père, j'aimerais te prier pour toutes sortes de situations que je ne pourrais pas nommer, Seigneur, mais que toi, tu connais. Et combien de situations de souffrance j'ai entendues, Seigneur, cette semaine, des situations tristes, et en même temps, parfois, je vois ta main souveraine, tu demeures au contrôle, tu es le Dieu qui est au contrôle, Seigneur. Et à travers la souffrance, tu veux des fois briser l'orgueil, des fois conduire à la repentance, Seigneur, des fois ramener une brebis égarée à la maison. Mais la souffrance demeure. La douleur est là quand même. Et Père, j'aimerais te prier pour ces situations que tu connais, ces foyers où des parents souffrent de voir les choix de leurs enfants, ces foyers où des couples s'entre-déchirent parce que le péché domine, l'orgueil, l'égoïsme domine, Seigneur. Ces situations où des individus quittent la protection de l'Église pour aller courir et décider de faire leur vie sans toi, sans chercher ton témoignage dans leur vie, Seigneur. Et certains d'entre eux, nous avons des échos, sont en train de transformer leur vie en ruine, Seigneur. Je te prie dans ta grâce, Seigneur, de sauver, de ramener à la maison, de restaurer. Père, je te demande de nous enseigner à travers cette série dans Néhémie comment on reconstruit sur des ruines, Seigneur. Viens nous apprendre à marcher avec toi, à t'inviter à entrer avec nous dans une œuvre de reconstruction. Père, viens nous redonner la foi. Certains d'entre nous n'ont plus la foi. Ils sont ici parce que c'est la bonne chose à faire le dimanche matin d'être à l'église. Ils sont ici parce que ça troublerait trop de personnes s'ils ne venaient pas, Seigneur. Mais ils n'ont plus la foi. Ils ne croient plus en toi, Père. Pour toutes sortes de raisons, ils ne croient plus en toi, Seigneur. Ils ont besoin que tu te révèles à eux de nouveau. Certains, Seigneur, sont en train de vivre et de construire sur des ruines et de détruire avec leurs propres mains, sans même s'en rendre compte, Seigneur. Ils ont besoin que tu ouvres leurs yeux. Ces châteaux de cartes qui sont en train de monter, qui vont s'effondrer d'un jour à l'autre. Et ils ont besoin que tu ouvres leurs yeux afin qu'ils construisent avec toi, Seigneur. Certains ici, Seigneur, sont ici par curiosité, parce qu'ils cherchent, mais ils ne t'ont pas encore invité à marcher avec eux. Ils n'ont pas encore fait alliance avec toi, Père. Je prie de te révéler à eux à travers cette série. Père, je veux t'adorer parce que tu es le Dieu de grâce. Tu es celui qui fait miséricorde, qui pardonne. Tu es celui avec qui il y a toujours de l'espoir. Tu es celui qui nous attend les bras grands ouverts, Seigneur. Père, je te prie de nous le révéler par ton esprit. Et enfin, je te demande de nous apprendre, Seigneur. Qu'est-ce que c'est ce travail de reconstruction? Quelle énergie ça va nous demander? Quel dévouement, quelle consécration? Tu nous as donné un beau modèle humble à travers ce Néhémie, Seigneur. Parle-nous à travers la vie de cet homme, à travers ses choix, ses prières, ses actions, ses décisions, ses interventions, sa foi. Parle-nous, Seigneur, afin que nous puissions reconstruire un témoignage pour ton nom là où il a été détruit, Seigneur, là où il y a des ruines. C'est dans le précieux nom de Jésus-Christ que je te prie. Amen. Alors ce matin, ce que je fais avec vous, c'est que je vais introduire le livre de Néhémie, d'accord? On va vraiment faire une introduction. Vous allez voir, on plongera même pas dans le livre. On va passer certainement les 3 prochains mois à étudier ensemble Néhémie. J'aimerais vous encourager cette semaine à prendre le temps de lire Néhémie. Si vous êtes des bons lecteurs, commencez par Esdras, ça va vous aider. Alors lisez Esdras, 10 chapitres, Néhémie, 13 chapitres. ou lisez-les au cours des prochaines semaines, mais vous allez placer le contexte. Ce matin, je veux placer le contexte du livre de Néhémie dans la grande histoire d'Israël et plus que ça même, dans l'histoire des Saintes Écritures. Replacer Néhémie dans l'histoire d'Israël, premièrement, puis ensuite de ça, où est-ce que ça se situe, ça, par rapport au Nouveau Testament? Et vous allez voir qu'un homme comme Néhémie et un homme comme Esdras ont pas mal plus d'importance dans notre histoire personnelle qu'on pourrait le penser, même si ce sont de vieux bonhommes qui sont morts depuis très longtemps. Ils ont pas mal plus d'importance dans notre histoire même personnelle à nous. Nous leur devons beaucoup à ces deux hommes-là et à l'œuvre que Dieu a faite à travers leur vie. Ce livre-là, c'est une histoire de ruine, je l'ai dit dans ma prière. C'est vraiment une histoire de ruine physique, de témoignage de Dieu ruiné. Le livre de Néhémie, c'est l'histoire d'un gars qui se réveille un matin et qui apprend que ce qui est très cher à son cœur est littéralement en ruine. C'est comme ça que le livre commence. C'est l'histoire d'un gars qui se réveille un matin et qui apprend que ce qui est très cher à son cœur est en ruine, littéralement en ruine. La ville qu'il aime, qu'il chérit, la ville qui raconte son histoire à lui, c'est son identité. C'est comme si vous vous pointiez ici. Moi, je suis un gars de Montréal, je suis né à l'hôpital Saint-Luc, la rive sud, c'est mon patelin. C'est comme si j'apprenais que ça avait été complètement dévasté, il n'y a que des morts ici. C'est le genre de sentiment que nos frères et sœurs haïtiens ont eu lorsqu'ils ont entendu parler de la catastrophe là-bas. La ville qu'il aime, la ville qu'il chérit, la ville qui raconte toute son histoire personnelle, l'histoire de sa famille, est en ruine. Les murailles sont détruites. Ce que ça veut dire en termes d'aujourd'hui, c'est qu'il n'y a plus de service de police, il n'y a plus d'armée, il n'y a plus aucune protection. Les bandes de voyous, les bandes de pillards qui veulent entrer de nuit, venir saccager, ont toute la liberté de le faire. On rentre et on sort. Les bandes de pillards rôdent autour et peuvent entrer à volonté. C'est ça les murailles à l'époque, vous comprenez? C'était le contrôle. Le contrôle pour la sécurité. Tu voulais être à l'intérieur des murs quand le soleil se couche pour être en sécurité. Mais il apprend que les murs sont... Il y a des brèches énormes dans les murs, les portes ont été brûlées, il n'y a rien de reconstruit. Les gens qui vivent dans sa ville vivent la misère. Et lui est à des centaines de kilomètres de là, parce qu'il fait partie de ces Juifs qui ont été exilés, qui ont été déportés. Il est donc très, très loin de sa ville, mais les nouvelles sont très mauvaises et son cœur est dévasté. Cet homme-là est en train de pleurer sur des ruines. Non seulement... parce que la ville qu'il aime est ruinée. Mais parce que le témoignage de Dieu qui était sur cette ville, la ville de Jérusalem, un joyau de Dieu comme témoignage. Jérusalem devait être cette place où les nations environnantes regardent et disent « Ah, c'est ça marcher avec Dieu ». Les peuples environnants qui vouaient toutes sortes de cultes à toutes sortes d'idoles et qui avaient des pratiques souvent extraordinairement barbares comme d'offrir leurs enfants en sacrifice à leurs dieux devaient regarder à Jérusalem et dire « Wow, c'est ça marcher avec Dieu. Moi, je pense que j'ai le goût de marcher avec Dieu. » Mais Jérusalem est en ruine. Ses murailles sont en ruine. Le témoignage de l'Éternel est en ruine. Le témoignage du Dieu des cieux, du Dieu créateur, est ruiné, littéralement. Et Néhémie est en train de pleurer, non seulement parce que sa ville, celle qui raconte son histoire à lui, son identité à lui, est en ruine, mais parce que le témoignage de Dieu qui était sur cette ville est en ruine. Le livre de Néhémie, c'est l'histoire d'un gars qui pleure sur des ruines, parce que la ville et le pays qu'ils avaient bâti, le témoignage de Dieu qui reposait là, est en ruine. Mais le livre de Néhémie, ce n'est pas juste une histoire de ruine, parce que ça ne s'arrête pas là, parce que tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Et c'est possible de reconstruire sur ces ruines-là. C'est l'histoire de Dieu, ça. Alors, je ne sais pas comment est-ce que toi, tu es arrivé ici ce matin, quel est l'état des lieux dans ta vie. Mais tu connaîtras Dieu lorsque tu sauras qu'avec Dieu, il y a toujours de l'espoir. Là, tu connaîtras Dieu. Et l'histoire de Néhémie, c'est une histoire d'espoir. C'est l'histoire de reconstruction sur des ruines. À travers les 3 prochains mois, on va voir comment un homme qui décide de se confier en Dieu et de prendre les choses en main, de se mettre à genoux pour commencer dans la prière et de demander à Dieu de bénir ses projets, de retrousser ses manches, peut rebâtir sur des ruines, rebâtir un témoignage pour Dieu. Étape par étape, nous allons suivre Néhémie. C'est ça qui est extraordinaire avec ce livre-là, c'est qu'on peut suivre une reconstruction progressivement en voyant les choix qu'un homme de Dieu doit faire s'il veut rebâtir sur des ruines. Alors, ce matin, je ne suis pas en train de vous annoncer qu'il va y avoir quelque chose qui va se passer ici ce matin. Le plafond va s'ouvrir, vous allez avoir une infusion quelconque, une onction quelconque qui va se passer. Boum! Tout va être réglé. Ce n'est pas l'histoire de Néhémie, ça. L'histoire de Néhémie, c'est l'histoire d'un travail ardu où on voit la souveraineté de Dieu et on voit Dieu vraiment mettre des choses en place. Et on voit un homme qui, pas à pas, prend les bonnes décisions humblement avec son Dieu. Ça dure 13 ans, cette reconstruction. Et donc, on va avoir le privilège de le suivre pas à pas pour apprendre comment reconstruire sur des ruines. Comment rebâtir. Si ce matin, je prends le temps d'introduire le livre, avant de plonger dans le livre de Néhémie, c'est parce que ce matin, j'ai une question pour vous. Et bien franchement, les prochains mois ne serviront pas à grand-chose si vous n'êtes pas capable de répondre à la question que je vais vous poser là. L'Esprit ne pourra pas faire le travail qu'il veut faire dans votre vie si vous n'avez pas déjà les yeux ouverts. Ma question, c'est simple. Quelles sont les ruines dans votre vie, autour de vous, sur lesquels Dieu désire rebâtir? Vous devez répondre à cette question-là avant dimanche prochain. Si vous ne le savez pas, commencez à jeûner, commencez à prier. Tout de suite, sautez le midi, dites « Chérie, je ne dîne pas ce midi, je m'en vais dans la prière. Il n'y a pas de ruines dans ma vie. J'ai besoin de trouver des ruines dans ma vie, chérie. » Quelles sont les ruines dans votre vie sur lesquelles Dieu veut rebâtir? Peut-être que c'est dans votre cœur. Peut-être que votre cœur est un chantier complètement dévasté. Vous êtes ici, comme j'ai dit tout à l'heure, parce que ça dérangerait trop de monde si vous n'étiez pas ici. Il y a du monde qui sont ici ce matin simplement parce qu'il y aurait trop de réponses à donner s'ils n'étaient pas ici. Le livre des Proverbes dit qu'au milieu du sourire, des rires, le cœur peut être entièrement dévasté. Vous êtes ici seulement pour cette raison-là. C'est moins compliqué d'aller à l'église, jouer la game, puis continuer ma semaine. Mais le cœur est un chantier complètement dévasté. Peut-être que c'est ça, vous revenez. Peut-être que c'est votre couple. Votre couple est en ruine. Vos relations conjugales. Peut-être que c'est votre rapport avec un de vos enfants. Il n'y en a plus. Ça ne connecte plus. Il n'y a plus de connexion. Ce n'est que chicane et conflit. Vous ne sentez pas que vous arrivez à l'aider. La ruine se trouve là. Peut-être que c'est plus simplement une relation au travail, où les relations sont pourries, mais totalement pourries, et vous ne savez pas quoi faire avec. C'est une chose d'être dans un milieu de travail qui est difficile. C'est la réalité. La vie, life is tough. C'est vrai? Alors ça, on doit vivre avec. Tout à l'heure, j'ai parlé d'un frère qui a eu des mauvaises nouvelles pour la santé. La vie est dure. Maintenant, on est vraiment dans un chantier de ruines quand, comme enfant de Dieu, on ne sait pas où donner de la tête là-dedans. On ne sait pas comment répondre. On ne sait pas comment réagir. On ne sait plus comment penser. On n'arrive plus à se confier en Dieu. Notre propre cœur est complètement envahi par ces tensions, par ces difficultés. Alors peut-être que c'est les relations au travail. Une ruine, une dévastation. Peut-être que c'est la relation avec vos parents. Peut-être que c'est votre ministère. Vous êtes impliqué dans un ministère, puis vous dites, mais on s'en va absolument nulle part. Il n'y a personne qui est là. Le cœur n'y est pas. On est en train de faire les choses, comme je disais tantôt, juste parce qu'il faut continuer à faire les choses. On ne veut pas arrêter. Peut-être que c'est une amitié. Vous regardez en arrière et cette amitié-là fut un temps très agréable et édifiante. C'était une bénédiction. Et maintenant, vous regardez à cette relation-là et c'est un chantier de ruines. Peut-être que c'est l'Église. Parce que vous connaissez un certain nombre d'amis, de frères et sœurs dans la foi. Et vous regardez, puis quand vous regardez à l'Église, votre échantillonnage à vous dit « c'est des ruines, ça ne va pas, ça ne va pas ». Dieu est en train de faire des choses particulières depuis un an et demi avec le groupe des collèges et carrières dans l'Église. Puis c'est vraiment une histoire où tu vois des plantes qui sont en train de pousser à travers des ruines, mais voilà 2 ans, on parlait avec les jeunes, puis « oh, c'était des ruines ça ». C'est des ruines. Et lorsque tu parlais avec les leaders, tu parlais avec les jeunes, ils ne savaient pas où est-ce qu'ils s'en allaient, puis ils voyaient tomber un après l'autre. Prendre les mauvaises décisions, faire les mauvais choix. Alors peut-être que ton échantillonnage à toi dans l'Église, ici, dans tes amis, tes frères et sœurs, à l'extérieur de l'Église, dans d'autres assemblées, tu regardes ça et tu te dis, mais c'est quoi ça, le peuple de Dieu? C'est pas le peuple de Dieu, ça. C'est des ruines. C'est dévasté. Quelles sont les ruines qu'il y a dans ta vie? Peut-être que ce n'est pas toi. Parce que voyez-vous, l'histoire de Néhémie, c'est l'histoire d'un gars qui, somme toute, était en bonne relation avec Dieu. Sa vie à lui, tant qu'à moi, n'était pas nécessairement en ruine. Je veux dire, c'était le barman personnel de l'empereur. C'est ça qu'il faisait. C'était le sommelier, si vous préférez, qui tenait la cave à vin. On verra ça plus dans les prochaines semaines. Mais c'est ça qu'il faisait. Il servait à boire à l'empereur, bonne condition, il semblait être en règle avec Dieu. Lui, sa vie n'était pas en ruine. Mais Dieu lui avait donné des yeux pour voir des ruines. Alors peut-être que ce n'est pas votre vie qui est concernée. Peut-être que c'est une vie près de vous, quelqu'un à côté de vous, des gens autour de vous. Quelles sont les ruines que Dieu veut vous amener à voir? Parce qu'il veut se servir de vous pour reconstruire sur ces ruines-là. Et on en a tous, d'accord? Je veux dire, on est tous en reconstruction. Est-ce que je peux dire ça? Non? On est tous en reconstruction. Je pourrais prendre un café avec vous, vous parler des ruines dans ma vie, ce que Dieu est en train de reconstruire dans ma vie. Autour de moi, chez mes proches, ce que Dieu est en train de faire. Vous devez trouver une réponse à ça. Et dans tous les exemples que j'ai donnés, il y a un dénominateur commun, d'accord? Et ça, c'est vraiment important de saisir ceci ce matin. Vous ne comprendrez pas le livre de Néhémie si vous n'arrivez pas à saisir ça. Le dénominateur commun dans tous les exemples que je vous ai donnés, c'est que le témoignage de Dieu dans ce domaine-là en particulier est ruiné. D'accord, je l'ai mentionné tout à l'heure, Néhémie ne pleurait pas seulement parce que sa ville préférée était en ruine. Il saisissait que le témoignage de l'Éternel était ruiné. Et c'est ça qui le bouleversait. Il y avait bien sûr toute cette affection personnelle pour cette ville de Jérusalem, ce qu'il définissait, son identité nationale, son histoire, tout ça. Mais c'est le témoignage, le nom de l'Éternel. Le témoignage de l'Éternel était ruiné. C'est de ce genre de ruines-là dont je vous parle. Ces endroits où Dieu voudrait que son empreinte soit dans votre vie. Dans une amitié, dans la vie d'un proche, Dieu voudrait avoir son empreinte, là. Que son nom puisse briller, qu'on puisse dire « wow, wow ». Ça, c'est quand tu marches avec Dieu, c'est comme ça que ça se passe. Mais parce que c'est une ruine, le témoignage de Dieu est ruiné. Ça ne brille pas, cette affaire-là. C'est de ce genre de ruine dont je vous parle. Je vous parle de tous ces domaines de la vie où le fait d'être chrétien et d'avoir Dieu de mon côté devrait faire une différence. Alors, c'est vaste. Ma famille, mes relations, en amour, mes finances, mes rêves, mes passions, mon temps, dans tous ces domaines-là. Même si la vie n'est pas facile, Dieu veut être glorifié. Maintenant, si vous êtes nouveau dans une église évangélique, toute cette idée-là que le témoignage de Dieu dans ma vie, c'est quelque chose qui est peut-être confus pour vous. Si vous êtes nouveau avec toute cette histoire de la vie chrétienne, de la chrétienté, tout ça, c'est quoi cette affaire-là d'avoir le témoignage de Dieu sur notre vie? De quoi on parle? Voyez-vous, lorsqu'on est chrétien, et c'est l'histoire de toutes les Écritures, dans la relation d'Israël avec Dieu, puis dans la relation de chaque chrétien avec Dieu, puis dans la relation d'une église avec Dieu, lorsqu'on est chrétien, un privilège immense qu'on a, c'est que nous ne bâtissons pas seuls. Nous croyons qu'il y a un Dieu qui est là, un Dieu créateur qui veille sur nous, qui veut nous bénir et qui veut construire avec nous notre vie. Ça, c'est le privilège du chrétien. Moi, je ne bâtis pas seul ma vie. Et lorsque tu commences à t'approcher de Dieu, lorsque tu découvres la foi en Jésus-Christ, lorsque tu viens faire alliance avec Dieu, je vais en parler un petit peu plus loin, en fait, ce que tu es en train de faire, c'est que tu es en train de dire à Dieu, « Dieu, à partir d'aujourd'hui, à partir de maintenant, moi, je ne veux pas construire seul. Et je ne voudrais pas construire sans toi ou contre toi. Je veux t'inviter à venir construire partout dans toute ma vie. » Je veux que tu m'accompagnes. Je veux qu'il y ait ton empreinte dans ma relation amoureuse avec mon épouse. Je veux qu'il y ait ton empreinte dans mes relations avec mes enfants. Je veux qu'il y ait ton empreinte dans mon cœur, dans mes pensées. Lorsque j'apprends que mon épouse a eu un accident de voiture, puis là, on commence à s'inquiéter, puis là, on pourrait être emporté par les inquiétudes. Qu'est-ce qui va se passer dans mon cœur? Je veux qu'il y ait, Seigneur, ton empreinte. Je veux que tu m'accompagnes dans ça. Je veux vivre ça. Je veux le traverser avec toi. Voyez-vous, c'est ça le privilège d'un chrétien. Et à ce moment-là, lorsque je suis en train d'apprendre à la lumière de la parole de Dieu comment marcher avec lui, je me tourne vers lui puis je vois comment est-ce qu'il veut que je réagisse, comment est-ce qu'il veut que je me comporte, comment est-ce qu'il veut que je parle à mon épouse, que je l'aime, comment est-ce que je dois aimer mes ennemis, si j'ai des relations de travail difficiles, comment est-ce que je dois me comporter avec eux. Au fur et à mesure que j'apprends à marcher selon la loi de Dieu, selon les préceptes de Dieu, selon la parole de Dieu, il y a un témoignage. Il y a un parfum qui commence à monter. Cette vie-là, tous ces domaines-là de ma vie commencent à porter un autre parfum. C'est le parfum de Dieu. Et c'est pour ça qu'on parle du témoignage de Dieu. C'est parce que les gens qui me connaissent assez autour me regardent parler avec Esther puis ils disent, il y en a qu'on le sait dans le fond que c'est un orgueilleux qui réplique tout le temps trop vite. Vous comprenez que ce n'est pas de moi que je parle, là. Mais puis vous me regardez puis vous dites, mais il y a quelque chose de différent. Il y a quelque chose de différent. Ce gars-là a appris à demander pardon, admettons. Et vous regardez un chrétien dans ses relations avec ses enfants, puis vous le savez dans le fond que ce n'est pas facile, puis qu'il y a des déceptions, puis il y a des frustrations, mais il y a un parfum. Il y a quelque chose de différent. Il y a un témoignage à la gloire de Dieu. Vous regardez les relations de travail, la gestion des finances personnelles. Vous regardez tous ces domaines-là, la manière qu'il sert, ce à quoi sert sa vie, quels sont ses rêves, quelles sont ses préoccupations, quelles sont ses passions. Et il y a un parfum qui se dégage de ça. C'est le témoignage à la gloire de Dieu. Alors, si vous êtes nouveau avec la foi chrétienne, puis vous nous entendez parler du témoignage de Dieu, pourquoi on voit Dieu dans notre soupe, nous autres? C'est vrai qu'on voit Dieu dans notre soupe. C'est vrai. Parce que notre joie à nous, c'est de bâtir avec Dieu au lieu de bâtir seul. Et c'est ce que Néhémie a fait. Plutôt que de décider de construire et de reconstruire seul, puis de dire, c'est mon histoire qui est dévastée là-bas à Jérusalem. Les gars, c'est le temps de se lever les manches, de se retroussier les manches, on va aller bâtir. C'est pas comme ça que Néhémie l'a fait, parce que Néhémie l'a fait comme un homme de Dieu. L'homme de Dieu veut reconstruire avec Dieu. Alors, c'était ça, Jérusalem. Jérusalem, c'était une ville qui avait été construite pour être un témoignage, un parfum qui parle de Dieu. Jérusalem avait été conçu pour que tu puisses aller visiter cette ville-là puis voir que les magistrats qui sont en train de gérer ça gèrent la ville autrement. Il n'y a pas de pot de vin dans cette ville-là. Il y a des choses qui ne sont pas là. Il y a une manière de se parler, il y a une manière d'agir, il y a une manière de vivre qui est transformée et qui témoigne de Dieu, qui porte le parfum de Dieu, parce que cette ville-là a été bâtie sous la gouverne de Dieu, avec Dieu. Jérusalem avait été donné comme un joyau à Israël, mais un joyau pour être un témoignage, un parfum pour les nations environnantes. C'est à ça que devait servir Jérusalem. Et les nations environnantes devaient regarder Jérusalem puis dire, « Wow! Sais-tu que je suis vraiment cocombe de ne pas marcher avec Dieu, moi? J'aimerais ça bâtir avec Dieu. J'aimerais ça construire avec Dieu. » Mais lorsqu'on arrive à l'époque d'Esdras et de Néhémie, on arrive dans une période de ruine, de désert spirituel. Voyez-vous, Dieu avait contracté une alliance avec Israël. Tournez avec moi, s'il vous plaît, dans Deutéronome. Genèse, Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome. Deutéronome, au début de la Bible. Deutéronome 4, verset 23. Pour comprendre le livre de Néhémie, le livre d'Esdras, pour comprendre cette époque-là, mais aussi pour comprendre comment Dieu reconstruit sur nos ruines, il faut comprendre c'est quoi une alliance avec Dieu, au moins un petit peu. Dans Deutéronome 4, 23, on trouve un passage où Dieu a donné à travers Moïse, Dieu a donné ses prescriptions pour son peuple, les termes de l'entente, de l'alliance. Esther et moi, on a contracté ensemble, le jour de nos noces, une alliance ensemble. Nous avons fait alliance. Dieu avait fait alliance avec Israël et Dieu désire faire alliance avec chacun d'entre nous, personnellement. Parce que Dieu est quelqu'un qui s'engage. Je sais que ça fait peur à plusieurs, en 2011, de s'engager. Mais Dieu est quelqu'un qui s'engage. Et quand Dieu s'engage, il est fidèle. Deutéronome 4, 23. Voici ce que Dieu dit, parce qu'il y a une mise en garde que Dieu sent. Dieu fait alliance avec Israël et il dit, « Voici, tu vas porter mon nom et il va y avoir certaines conditions. Il va y avoir des bénédictions énormes et il va y avoir certaines conditions parce qu'il va falloir que tu sois à ma ressemblance. » Voyez-vous, quand j'ai décidé de marier Esther, puis qu'elle a décidé de se marier avec moi, Esther avait pris le temps de me regarder avant, de me regarder vivre, parce que si j'avais été un gars qui, rentrait le soir, tu sais, si j'avais été un gars du genre, elle ne sait pas où je travaille, elle ne sait pas comment je rentre de l'argent à la maison, mais elle sait que j'ai une cagoule puis un gun caché en dessous du lit, puis je rentre souvent tard le soir, mettons. Esther ne m'aurait pas marié. Parce qu'elle aurait dit, c'est pas ça que je veux avoir comme vie et c'est pas ça que je veux avoir comme témoignage. Alors, elle a pris le temps de me connaître et de voir le genre de gars que j'étais parce qu'elle voulait bâtir avec moi un foyer qui allait être un témoignage de ses valeurs personnelles. Quand Dieu a fait alliance avec Israël, il a dit, voici mes valeurs. C'est des valeurs de bénédiction, de sainteté, de grâce, de joie, de bonté, d'amour, de compassion, de miséricorde. Est-ce que tu veux les adopter avec moi? On va faire alliance ensemble, on va se marier ensemble. Et c'est ce qu'Israël a fait avec Dieu. Et on arrive dans Deutéronome 4, 23, voici ce que Dieu dit. « Veillez sur vous afin de ne point mettre en oubli l'alliance que l'Éternel, votre Dieu, a traitée avec vous et de ne point vous faire d'images taillées. Ne retournez pas à des cultes idolâtres, de représentation quelconque de l'Éternel, ton Dieu, que l'Éternel, ton Dieu, t'a défendu. » Car l'Éternel, ton Dieu, est un feu dévorant, un Dieu jaloux. Et c'est comme ça que ça devrait être aussi à quelque part dans le mariage. Une saine jalousie. Lorsque tu auras des enfants et des enfants de tes enfants et que vous serez depuis longtemps dans le pays, si vous vous corrompez, si vous faites des images taillées, des représentations de quoi que ce soit, si vous faites ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, votre Dieu, pour l'hériter, et Dieu donne sa parole. Et quand Dieu donne sa parole, il honore sa parole. J'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. Vous disparaîtrez par une mort rapide du pays dont vous allez prendre possession. Quand Dieu dit ça à Israël, il n'était pas encore dans la terre promise. Et Dieu est en train de dire les termes de l'entente, de l'alliance. Vous disparaîtrez par une mort rapide du pays dont vous allez prendre possession au-delà du Jourdain. Vous n'y prolongerez pas vos jours, car vous serez entièrement détruits. L'Éternel vous dispersera parmi les peuples et vous ne resterez qu'un petit nombre au milieu des nations où l'Éternel vous emmènera. Il parle de déportation ici. Et là, vous servirez des dieux, ouvrages de main d'homme, du bois et de la pierre qui ne peuvent ni voir ni entendre, ni manger, ni sentir. Et Israël a juré, en prenant à témoin les cieux et la terre, qu'il serait fidèle à l'Alliance. Dieu étant ce qu'il est, dans sa grâce, sa sagesse et sa bonté, savait qu'Israël serait infidèle. Et on va lire dans quelques instants la suite de ce passage-là. Lorsqu'on arrive dans l'histoire d'Esdras et de Néhémie, je vous donne le contexte rapidement. Les deux royaumes, parce qu'à un certain moment donné, il y a eu une division en Israël et on a eu le royaume du nord et le royaume du sud, Israël et Juda, qui est en fait toute la nation d'Israël. Il y a eu une division et il y a eu une première déportation. Le royaume du nord a été infidèle à l'alliance. On commençait à faire toutes sortes d'alliances avec des peuples environnants. On commençait à adopter leur culte, à adopter leurs idoles, à adopter leur style de vie, à adopter leur péché dans leur vie. Et la dévastation entrait dans le pays. Et Dieu a sévi littéralement comme il avait dit qu'il ferait. Et le royaume du nord est déporté. Quelques temps plus tard, le royaume du sud va subir exactement la même chose et va être déporté. Lorsqu'on arrive dans le livre d'Esdras et de Néhémie, ça fait 50 ans, grosso modo, que le royaume du sud, la deuxième déportation, est complétée. Babylone a vaincu Israël. Les gens à l'extérieur qui ne croient pas en Dieu, qui ne connaissent pas l'histoire biblique, disent « Oui, mais Israël, c'était une toute petite nation au milieu d'un empire, l'empire babylonien, c'était normal qu'il écrase. » Dieu nous dit « Non, je les aurais gardés, je les aurais préservés. » Et lorsqu'on lit l'histoire, nous voyons ce qui se passe. Et ces gens-là sont déportés, comme on faisait à l'époque pour casser un pays, littéralement. Tu rentres dans la ville, tu rentres dans la capitale, tu la saccages. Et Jérusalem a été littéralement saccagée à ce moment-là. Le temple a été détruit, les murs ont été brisés, des brèches importantes ont été pratiquées partout pour que les défenses soient défaites, les portes ont été brûlées et les Juifs ont été déportés par dizaines de milliers pour être amenés au cœur de l'Empire babylonien pour pouvoir casser le pays. Et là, ce qu'on faisait, c'est qu'on laissait un peu de gens, un petit peuple qui était là sans ressources, sans éducation, sans moyens financiers, et on les laissait se mêler avec les autres pays environnants, puis on essayait de collecter des impôts là-dedans. Alors, 50 ans avant Esdras, c'est ça qui se passe. Esdras, Néhémie sont deux hommes qui ont été exilés, qui ont été déportés comme ça. L'Empire babylonien commence à être mangé de l'intérieur par les Perses, les Mèdes et les Perses, et commence à renverser l'Empire babylonien. Lorsqu'on arrive dans l'histoire d'Esdras et Néhémie, on est 50 ans plus tard, l'Empire babylonien est mangé de l'intérieur par l'Empire perse, littéralement. Et là, il y a un revirement incroyable qui se passe. Une autre politique complètement. Et on a des traces dans l'histoire de ça parce que nous avons encore des vestiges de l'édit publié par Cyrus, l'empereur perse, lorsqu'il décide de changer complètement sa stratégie. Et là, il décide que c'est le temps. C'est le temps de renvoyer des peuples vers leur pays pour rebâtir ces pays-là. Évidemment, il faut avoir des gens pour bâtir un pays si tu veux collecter de l'impôt. D'accord? Maintenant, les prophètes avaient annoncé qu'il viendrait un moment lorsque le peuple d'Israël pleurait sur son péché, où Dieu renverrait Israël pour reconstruire. Il les retournerait chez eux. On va continuer à lire dans Deutéronome 4, quelques versets plus loin, le verset 29. Au verset 27, il avait dit, « L'Éternel vous dispersera parmi les peuples. Vous ne resterez qu'un petit nombre au milieu des nations où l'Éternel vous emmènera. » Et au verset 29, « C'est de là aussi, dans ta déportation, quand tu es au milieu des nations, c'est de là aussi que tu chercheras l'Éternel ton Dieu. » Parce qu'à un certain moment donné, tu vas entrer en toi-même puis tu vas dire, « Mais qu'est-ce qu'on fait ici? C'était pas ça l'idée. » C'est de là aussi que tu chercheras l'Éternel ton Dieu et que tu le trouveras si tu le cherches de tout ton cœur et de toute ton âme. Au sein de ta détresse, toutes ces choses t'arriveront. Alors, dans la suite des temps, Tu retourneras à l'Éternel ton Dieu et tu écouteras sa voix, car l'Éternel ton Dieu est un Dieu de miséricorde, qui ne t'abandonnera point et ne te détruira point. Il n'oubliera pas l'alliance de tes pères qu'il leur a jurée. Si vous voulez comprendre le Dieu de la Bible, vous devez comprendre ce verset-là. Parce qu'avec Dieu, tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Parce qu'il est celui qui reconstruit sur les ruines. Alors, anciennement, le livre d'Esdras et le livre de Néhémie, c'était un seul livre. D'accord? Dans le canon hébraïque, c'est un seul livre, Esdras et Néhémie, parce que ça se déroule dans une période d'à peu près 100 ans. Et les deux livres racontent l'histoire du retour de l'Exode, du retour de l'exil, lorsqu'ils vont retourner là-bas. Éventuellement, dans les Bibles chrétiennes, on a séparé les deux livres, les gardant côte à côte, parce qu'il y a deux personnages principaux, Esdras, un scribe, et Néhémie, qui va devenir gouverneur là-bas en Israël, à Jérusalem. Et donc, on les a séparés à cause des personnages principaux de l'histoire, si je peux dire. Mais anciennement, c'était un seul et même livre. Et on pense, pour le mieux qu'on est capable de situer, Esther se passe pendant cette période-là aussi. Alors, si vous voulez situer le livre d'Esther, allez lire Esther, ça se passe dans cette même période-là aussi, d'accord? Esdras et Néhémie, c'est 100 ans d'histoire. On commence avec Esdras, l'édit de Cyrus qui dit, « OK, je veux renvoyer des Juifs là-bas, je veux que vous reconstruisiez le temple, je vous donne de l'argent, je vous remets tout ce qu'on a apporté. Tous les Juifs qui veulent partir et reconstruire, vous allez partir avec une lettre officielle du gouverneur et vous avez le droit de l'empereur et vous avez le droit de reconstruire. » Ça, c'est le livre d'Esdras. Ce que Esdras va faire, c'est qu'il va revenir avec tous ceux qui sont prêts à partir avec lui et il va aller reconstruire le temple. Il va reconstruire le temple malgré beaucoup d'opposition parce qu'évidemment, il y a des gens qui se sont installés là-bas. Ils ont décidé que c'était leur territoire. Puis là, ils voient le temple qui va être reconstruit, le culte à l'Éternel. Ils vont se structurer. On va perdre de l'influence sur les lieux, sur la région. Et donc, il va y avoir de l'opposition. Mais Esdras va conduire fidèlement tout ce processus de reconstruction du temple. C'est un moment extrêmement important dans l'histoire d'Israël, dans notre histoire à nous. Alors, Esdras, reconstruction du temple. Le temple est reconstruit, mais la ville est toujours en ruine. Néhémie entend des nouvelles, prend des nouvelles au début du livre de Néhémie, et il dit, comment ça se passe là-bas? Parce qu'il y a des gens qui viennent de Jérusalem, puis il dit, donne-moi des bonnes nouvelles, je veux savoir comment ça va. Et les gens lui donnent des mauvaises nouvelles, parce qu'ils disent, il n'y a aucune police, il n'y a aucune sécurité, il n'y a aucune protection, il y a des brigands qui rentrent, qui sortent. Les gens qui vivent là sont misérables. Et Néhémie tombe en larmes. Littéralement, pendant 4 mois, il va pleurer. Pendant 4 mois, on va entrer dans ça la semaine prochaine. Mais Néhémie, c'est celui qui va se tourner vers Dieu, puis qui va dire, OK, il faut aller finir ce qui a été commencé maintenant. Il faut aller reconstruire les murs autour de ça. Il faut mettre une protection pour que la ville soit rebâtie, que le pays commence à se réorganiser, qu'il y ait une sécurité dans le pays et qu'on puisse rétablir le témoignage de l'Éternel. Maintenant, si vous êtes familier un petit peu avec l'histoire de la Bible, d'accord? Essayez de réaliser l'importance de ce qui se passe là avec ces deux bonhommes-là, dans cette époque-là. Néhémie, et puis Esdras et Néhémie, c'est la fin de l'histoire d'Israël jusqu'aux Évangiles. D'accord? Quand on parle des livres historiques, je sais qu'il y en a qui ne me suivront peut-être pas. J'en donne un peu plus pour les autres pour voir la beauté de cette histoire-là. Esdras et Néhémie, c'est la fin des livres historiques qui nous racontent ce qui se passe avant la venue de Jésus. Après ça, on a un 400 ans de silence dans les Écritures. Les autres livres que vous avez, ce sont les livres prophétiques. Ce sont les prophètes qui parlent pendant ce temps-là, Agée qui est en même temps que Esdras. Donc, vous avez les prophètes qui parlent dans cette période-là, avant, pendant l'exil, tout ça. Mais on n'a plus d'histoire. Et avant qu'Esdras et Néhémie interviennent, il n'y a tout simplement plus de place sur la terre où officiellement on est en train d'adorer le Dieu que nous connaissons aujourd'hui. Vous savez, nous, on vit au 21e siècle, puis l'idée qu'il y a un seul Dieu qui a créé les cieux et la terre, cette idée de monothéisme que le christianisme porte, on est tous familiers avec ça, ça va de soi, c'est quand même plus logique de dire que si Dieu existe, il y en a juste un, c'est pas des petits bonhommes en bambou qui ont créé la terre, puis probablement, tu sais, que c'est pas des animaux non plus qui sont des dieux. Probablement qu'il y a un Dieu, un grand esprit qui a créé tout ça. Cette idée-là de monothéisme, c'était les Juifs qui la portaient. Mais avant qu'Esdras et Néhémie interviennent, il n'y en a plus de culte à l'Éternel. Ça n'existe plus. Ils sont déportés. Il n'y a plus de témoignage officiel. L'histoire du culte à l'Éternel s'est arrêtée. Vous avez des groupes de personnes juives qui sont déportées un peu partout dans l'Empire babylonien, maintenant l'Empire perse, et il n'y a plus de témoignage. Comment est-ce qu'on va arriver, et c'est là que nous, comme chrétiens, nous leur devons tellement, comment est-ce qu'on va arriver à cette époque des quatre évangiles où Jésus va naître à Bethléem? Si Esdras et Néhémie n'entreprennent pas le retour, la reconstruction, comment est-ce que ces prophéties-là vont s'accomplir? Parce que les prophéties avant Esdras et Néhémie annonçaient déjà des choses qui s'en venaient. Comment est-ce que ça va s'accomplir tout ça? L'histoire s'est arrêtée. Il n'y a plus d'Israël. C'est explosé. Ils ont été déportés. L'histoire s'arrête là. Et Dieu, dans sa souveraineté, suscite deux hommes, Esdras et Néhémie, suscite et met sur le cœur de Cyrus, d'Artaxerxès, et il met sur le cœur d'empereurs païens qui n'ont absolument rien à faire de Dieu, il met sur leur cœur de renvoyer des gens pour rebâtir. Et le témoignage au nom de l'Éternel va être reconstruit dans cette époque-là. Pour qu'après viennent s'accomplir les prophéties. Que Jésus naisse à Bethléem, qu'Israël soit en place, que le Sauveur vienne mourir sur une croix, s'offrir en sacrifice pour nous. C'est quand même fascinant de voir dans toute cette histoire de la rédemption le rôle qu'ont joué ces deux hommes-là. Parce que ces deux hommes ont pris à cœur d'obéir à l'Éternel et ils ont pris à cœur de faire confiance à Dieu pour rebâtir sur des ruines, littéralement. Quelles sont les ruines dans ta vie, dans ta maison, autour de toi, dans l'église, des frères et sœurs que tu vois peut-être, chez tes enfants? Quels sont ces domaines qui devraient porter le parfum de Dieu, où le témoignage de Dieu devrait être manifeste, devrait être évident, mais quand tu te tournes vers ça, tu te dis, ce serait mieux que personne ne sache que je suis chrétien, ça ne glorifie pas Dieu, tout ça, c'est vraiment un champ de ruines. Et peut-être que c'est ton cœur, comme j'ai dit. L'histoire de Néhémie, c'est l'histoire d'un homme qui a pleuré sur les ruines. Qui a pleuré parce que son cœur était brisé, ce qui était tellement cher à son cœur était détruit. Mais qui a pleuré parce que le témoignage de l'Éternel n'était plus là, le témoignage était ruiné. Et l'histoire de Néhémie, c'est une histoire d'espoir. C'est une histoire de grâce. Parce que c'est possible de reconstruire. L'image qui me venait à l'esprit lorsque j'étais en train de travailler pour préparer la série, c'est l'image d'une réhabilitation. Vous savez, il y a des gens, peut-être qu'il y en a ici, qui se retrouvent à un certain moment donné dans un accident de voiture énorme. La dernière chose qu'ils se souviennent, c'est la collision. Et lorsqu'ils se réveillent, c'est avec des flashbacks d'un voyage peut-être en ambulance, se réveillent dans une chambre d'hôpital pour réaliser que leur corps est complètement dévasté. Des fois, plus capable de marcher, plus capable de parler. Si le cerveau a été atteint, il y a plein de fonctions importantes qui sont affectées. Et ce sont des ruines. Leur corps est en ruine. Et là, le médecin vient les voir tranquillement puis il leur dit, J'ai deux nouvelles à te donner. Une mauvaise nouvelle puis une bonne nouvelle. La mauvaise nouvelle, c'est que avant que tu retrouves une qualité de vie, ça va prendre des mois, peut-être des années. La bonne nouvelle, c'est que si on travaille fort ensemble, on peut reconstruire. On peut te réhabiliter. Ça va prendre beaucoup de travail, beaucoup d'efforts, beaucoup de patience, beaucoup d'aide. On va pouvoir reconstruire. Et un jour, tu vas retrouver une qualité de vie. Je trouve que c'est une belle métaphore pour illustrer ce que Néhémie a fait ici et ce que Dieu veut faire dans nos vies autour de nous. On est tous en reconstruction et Dieu veut nous réhabiliter. Quel est le domaine, quel est ce champ de ruines dans ta vie autour de toi où Dieu veut opérer cette réhabilitation-là? Ce qu'il y a d'extraordinaire avec le livre de Néhémie, c'est qu'il ne nous fera pas désaccroire. Il ne va pas nous dire que ça se fait du jour au lendemain, mais il va nous montrer étape après étape comment on reconstruit dans un champ de ruines. Et dans le livre de Néhémie, on voit combien Dieu bénit et prend à cœur cette entreprise-là. Alors, si ce matin, toi, tu connais les ruines qu'il y a dans ta vie, mais tu doutes que Dieu veuille vraiment reconstruire sur ces ruines, tu ne crois pas que Dieu veut rebâtir, je t'invite à revenir au Dieu de la Bible. L'Éternel est celui qui veut rebâtir. Néhémie, c'est une histoire d'espoir et de grâce qui nous pointe vers Jésus-Christ. Parce que voyez-vous, l'Évangile, c'est précisément ça. L'Évangile, c'est Jésus-Christ qui est venu, qui avait tellement à cœur de rebâtir sur nos ruines dévastées qu'il est venu donner sa vie en sacrifice. Il est venu donner sa vie en sacrifice afin que nous soyons pardonnés de nos péchés, que nous soyons réconciliés avec Dieu et que nous commencions à bâtir avec Dieu dans nos vies. C'est ça l'histoire de l'Évangile. C'est une histoire d'espoir. Parce que le Dieu de la Bible, c'est celui qui bâtit et qui fait grâce malgré toutes les ruines qu'il peut y avoir dans ta vie. J'aimerais ça t'inviter, si jusqu'à présent, dans ta vie, tu cherches à reconstruire seul sans Dieu, à considérer sérieusement, de chercher Dieu, de chercher à connaître Jésus-Christ. Vous savez, des gens qui avancent dans la vie sans Dieu et qui cherchent à rebâtir, il y en a plein. Allez faire un tour dans une bonne librairie, puis vous allez voir un paquet de livres qui parlent de reconstruction. Toutes sortes d'affaires de couple, de relations, de travail, d'estime de soi, n'importe quoi, de vos finances personnelles. Je veux dire, tout le monde a des ruines dans sa vie, puis tout le monde veut reconstruire. Ce que je suis en train de vous dire ce matin, c'est qu'il y a deux manières de le faire. Seul ou en invitant Dieu à bâtir avec vous. Alors, si jusqu'à présent dans ta vie, tu as toujours cherché à reconstruire, à bâtir, seul, par tes propres forces. Moi, je veux t'inviter ce matin à considérer sérieusement, de prendre le temps de lire avec nous dans les prochains mois le livre de Néhémie pour voir la différence lorsque tu décides de reconstruire avec Dieu. Et tout de suite d'aller dans la prière puis de dire, j'aimerais ça comprendre ce que Christ a fait. On me dit qu'il a fait quelque chose pour moi. It doesn't make sense. Je ne comprends pas ce que ça change dans ma vie qu'un bonhomme avec une longue barbe ait été crucifié il y a 2000 ans, qu'il soit mort. Qu'est-ce que ça change dans ma reconstruction à moi? Mets ça dans la prière. Mets ça dans la prière. Le Dieu qui a été au contrôle des circonstances dans l'histoire d'Israël pour rebâtir Israël est au contrôle des circonstances dans ta vie. C'est le Dieu qui se dévoile à ceux qui le cherchent. Que Dieu puisse nous bénir dans les prochains mois. Que Dieu vienne vous redonner la foi. Que Dieu vous apprenne et nous apprenne à travailler fort. Ça va être beaucoup de travail. Beaucoup de travail. Mais le parfum qui va se dégager de ça va être à la gloire de Dieu. Amen. Seigneur notre Dieu, je veux te bénir parce que tu es mon Père, le Dieu de toute grâce. Tu es le Dieu qui fait grâce, celui qui n'oublie pas son alliance. Et Père, j'aimerais te prier pour toute personne ici ce matin qui n'a jamais fait alliance avec toi, qui marche dans la vie en essayant de construire seul, en s'appuyant sur ses propres forces. Je prie, mon Père, de te révéler à cette personne, à ces gens, au cours des prochains mois. Qu'ils puissent découvrir à travers le livre de Néhémie la grâce de l'Évangile, la bonne nouvelle d'un Dieu gracieux qui veut reconstruire nos vies, qui a envoyé son Fils mourir sur la croix pour nous. Je te prie, Père, pour ceux d'entre nous qui ne croient plus en toi. Je prie, Seigneur, pour ceux d'entre nous qui voient des ruines autour d'eux et qui manquent de foi pour s'investir dans cette reconstruction, qui disent, oui, Seigneur, tu peux faire la différence dans ma vie, mais je ne crois pas que tu peux la faire dans la vie de mon fils, dans la vie de ma fille, dans la vie de mon épouse, de mon époux, de mes collègues de travail, de mes parents. Dans cette église, Seigneur, je ne crois pas que tu peux faire la différence. Pour moi, c'est suffisant, mais pour eux, je ne vois pas, Seigneur. Je prie, Père, de nous redonner la foi. Et Seigneur, comme on veut apprendre à prier cette année, Père, à travers cet homme de prière extraordinaire qu'a été Néhémie, je demande de nous apprendre à prier. Apprends-nous, Seigneur, à ne pas reconstruire seul, mais à commencer par se mettre à genoux et à chercher constamment ton assistance et ta direction. Seigneur, je veux entendre. C'est ma prière personnelle à moi, Père. Parce que moi, je connais beaucoup d'histoires, Père. Toi, tu en connais plus que moi encore, mais moi, j'en connais beaucoup, Seigneur. Et parfois, c'est lourd de connaître des histoires de ruines et de destruction personnelle, Seigneur. Des histoires cachées. Père, je te prie de venir reconstruire sur des dizaines et des dizaines de ruines cette année. Et commencer cette œuvre, Père, pendant ces trois mois où nous allons humblement pencher les regards sur ta parole. Et je veux entendre, Seigneur, des nouvelles de reconstruction, de réhabilitation. Je veux, Seigneur, sentir ce parfum qui change dans des vies pour la gloire de ton nom. Parce que tu en es digne, Seigneur. Tu t'es offert en sacrifice pour nous. Tu nous as donné ton Fils chéri, Seigneur. Viens et fais briller ton témoignage dans tous les domaines de nos vies et de cette Église, Seigneur. Autour de nous aussi dans cette ville, dans les quartiers où nous habitons, Seigneur. Viens établir ton témoignage. C'est en Jésus-Christ que nous te prions. Amen.